d'Emily Brontë, Un amant ou Léo de Hurlevent. Prologue, chapitre 1er, 1801. Je reviens d'une visite à mon propriétaire, le seul voisin dont j'aurai à m'occuper ici. Voilà assurément un beau pays. Je ne crois pas que dans toute l'Angleterre, j'eusse pu trouver un endroit aussi complètement à l'écart de la société. Un parfait paradis de misanthropes. Et M. Heathcliff et moi formons justement la paire qui convient pour nous partager cette désolation. Un gaillard étonnant. Il ne se doutait pas combien mon cœur brûlait de sympathie pour lui tout à l'heure, tandis que je voyais ses yeux noirs se remuer si soupçonneux sous leurs sourcils et ses doigts, avec un geste de résolution jalouse, s'enfoncer plus profondément encore dans son gilet à l'annonce de mon nom. « Monsieur Heathcliff, dis-je. » Un signe de tête fut sa seule réponse. « Je suis Monsieur Lockwood, votre nouveau fermier, monsieur. J'ai pris l'honneur de vous faire visite le plus tôt possible après mon arrivée pour vous exprimer l'espoir que je ne vous ai pas gêné par ma persévérance à solliciter le droit d'occuper Serge Cross Grange. J'ai entendu dire hier que vous aviez eu quelque idée. Serge Cross Grange m'appartient, monsieur, dit-il en m'interrompant. Je ne permettrais à personne de me gêner si je pouvais l'empêcher. Entrez. Cette entrée fut prononcée les dents fermées et exprima plutôt le sentiment de aller au diable. Même la porte sur laquelle il s'appuyait se manifesta à ces mots qu'un mouvement sympathique. Et j'imagine que ces circonstances furent ce qui me détermina à accepter l'invitation. Je me sentais intéressé pour un homme qui me paraissait plus exagérément réservé encore que moi-même. Lorsqu'il vit le poitrail de mon cheval pousser légèrement la barrière, il sortit sa main pour enlever la chaîne. Après quoi, il me précéda le long de la chaussée montante d'un air grognon, marchant devant moi. Et lorsque nous entrâmes dans la cour, « Joseph, criait-il, prenez le cheval de M. Lockwood et montez du vin. » Nous avions évidemment là tout le personnel des domestiques. C'est la réflexion que me suggéra cet ordre de mon nom. Rien d'étonnant à ce que l'herbe pousse entre les pavés et à ce qu'il y ait pour couper les haies et que les bêtes du troupeau. Joseph était un homme d'un certain âge, non un vieil homme. Très vieux peut-être, bien que très vert. « Que le Seigneur vous aide !» grognait-il tout bas avec un ton de rogue déplaisir, tandis qu'il me débarrassait de mon cheval. Et il me regardait en même temps dans la figure d'un air si aigre que je conjecturais charitablement qu'il avait besoin de l'aide de Dieu pour digérer son dîner et que sa pieuse exclamation n'avait aucun rapport avec ma visite inattendue. Wuthering Heights est le nom de la demeure de M. Heathcliff. Wuthering étant un adjectif provincial très significatif pour décrire le tumulte atmosphérique auquel est exposé cet endroit dans les temps d'orage. Un vent pur et réconfortant, ils doivent l'avoir là-haut en toute saison. On peut juger de la puissance du vent du nord, soufflant par-dessus la haie et par la pente excessive des quelques sapins rabougris continus à la maison, et par une rangée d'épines décharnées qui tendent leurs membres toutes dans un même sens, comme si elles mendiaient l'aumône du soleil. Heureusement, l'architecte a pris la précaution de bâtir solidement la maison. Les étroites fenêtres sont profondément enfoncées dans le mur, et il y a de grandes pierres en saillie pour protéger les coins. Avant de passer le seuil de la porte, je m'arrêtai pour admirer une quantité de sculptures grotesques répandues sur le fronton, et particulièrement à l'entour de la porte principale. Au-dessus de cette porte, parmi un enfer de griffons émiettés et d'impudents petits monstres, je découvris la date 1500 et le nom Hareton Herbshaw. J'aurais volontiers fait quelques commentaires et demandé au morose propriétaire une courte histoire du lieu, mais son attitude à la porte m'a paru réclamer mon entrée hâtive ou mon départ définitif, et je ne voulais pas aggraver son impatience avant d'avoir examiné l'intérieur de la retraite. Une marche nous introduisit dans le salon de la famille, sans la moindre trace d'antichambre ou de passage intermédiaire. C'est ce salon qu'ils appellent ici plus spécialement la maison. Il comprend généralement la cuisine et le parloir, mais je crois qu'à Wuthering Heights, la cuisine a été forcée de se retirer dans un autre quartier. Du moins, je distinguais très loin à l'intérieur de la maison une jacasserie de langue et un brouhaha d'ustensiles culinaires, tandis que je n'ai observé aucun signe dénotant que l'on rôtisse, que l'on cuise ou que l'on fasse bouillir dans la large cheminée, non plus que je n'ai vu sur ces murs aucun reflet de casserole, de cuivre ou de passoire d'étain. En vérité, une de ces extrémités reflétait brillamment à la fois la lumière et la chaleur d'une rangée d'immenses plats d'étain, entresemés de cruches et de pots d'argent, faisant comme des tours alignés sur un vaste dressoir de chêne, tout à fait dans le haut. Au-dessus de la cheminée étaient accrochés divers vieux fusils préhistoriques et une paire de pistolets de cheval. De plus, en manière d'ornement, trois petites corbeilles étaient alignées le long du rebord, peintes en couleurs très voyantes. Le plancher était d'une pierre tendre et blanche. Les sièges avaient des dos très élevés, ils étaient d'une forme primitive et peints en verre. J'en vis un ou deux noirs et massifs qui reluisaient dans l'ombre. Dans une sorte de voûte sous le dressoir reposait une énorme chienne d'arrêt rouge foncé, entourée par un essaim de petits chiens piaillants, et je vis d'autres chiens logeant dans d'autres recoins. L'appartement et ce qu'il remplissait n'auraient eu rien d'extraordinaire s'il n'avait appartenu à un paisible fermier du Nord, avec une mine têtue et des membres robustes avantageusement dessinés par une culotte courte et des guêtres. Un tel individu, assis dans son fauteuil, sa cruche d'ailes écumante sur sa table ronde devant lui, vous pouvez le voir partout dans un circuit de 5 ou 6 miles autour de ces collines, pour peu que vous entriez chez lui tout de suite après dîner. Même M. Heathcliff forme un singulier contraste avec sa demeure et sa façon de vivre. Il a l'aspect d'un gypsy à la peau noire, tandis que son costume et ses manières sont d'un gentleman, c'est-à-dire autant d'un gentleman que celle de plus d'un squire de province. Un peu négligé peut-être, mais ne paraissant pas désavantageusement dans sa négligence, parce qu'il a une figure droite et agréable, et aussi un peu morose. Il est possible que quelqu'un le soupçonne d'un orgueil exagéré. Mais j'ai en moi une corde sympathique qui me dit que ce n'est rien de pareil. Je sais par instinct que sa réserve vient d'une aversion pour les expansions démonstratives des sentiments, pour les manifestations de bienveillance mutuelle. Cet homme doit aimer et haïr également sous le couvert, et il doit estimer comme une espèce d'impertinence qu'on lui rende son amour ou sa haine. Non, mais non, je vais trop vite. Je le revais trop libéralement de mes propres qualités. Il se peut que M. Heathcliff ait, pour se tenir à l'écart lorsqu'il rencontre une soi-disant connaissance, des raisons toutes différentes de celles qui me déterminent moi-même. Je veux espérer que ma constitution est unique dans son genre. Ma chère mère avait coutume de me dire que je n'arriverais jamais à avoir un intérieur confortable, et l'été dernier encore, je fis voir que j'étais en effet parfaitement indigne d'en avoir un. Pendant que je jouissais d'un mois de beau temps au bord de la mer, le hasard me jeta dans la compagnie d'une créature pleine de séduction, une vraie déesse à mes yeux, aussi longtemps qu'elle ne fit aucune attention à moi. Je ne lui dis jamais mon amour de vive voix, mais si les regards ont un langage, le plus pur idiot aurait pu deviner que j'étais amoureux par-dessus la tête. Enfin, elle me comprit. Elle me répondit par un regard, oh, le plus doux de tous les regards imaginables. Et moi, que fis-je? Ben, je l'avoue avec honte, je me renfonçais froidement moi-même comme un colimaçon. À chaque regard, je me retirais davantage, jusqu'à ce qu'enfin la pauvre innocente en vint à douter de ses sens, et toute remplie de confusion de son erreur supposée, persuada sa mère de partir. Par ce curieux retour de mes dispositions, j'ai gagné la réputation d'un être délibérément pervers. Réputation combien injuste, moi seul puis l'apprécier. Je pris un siège à l'extrémité de la pierre de foyer, opposée à celle vers laquelle mon propriétaire s'était avancé, et je remplis un intervalle de silence en essayant de caresser la mère chienne qui avait quitté sa nursery et qui, comme une louve, se glissait derrière mes jambes, sa lèvre relevée et ses dents blanches guettant l'occasion de happer. Ma caresse provoqua un long et guttural grognement. « Vous feriez mieux de laisser le chien tranquille, » grogna à l'unisson M. Heathcliff, prévenant d'un coup de pied les démonstrations plus méchantes. « Elle n'est pas accoutumée à être gâtée ni traitée en favorite. » Puis, marchant à grands pas vers une porte de côté, il cria de nouveau « Joseph !» Joseph marmotta indistinctement quelque chose des profondeurs de la cave, mais ne fit nullement mine de monter. De sorte que son maître descendit vers lui, me laissant en tête à tête avec la chienne mal élevée et une paire d'affreux chiens de berger velus qui partageaient avec elle une surveillance jalouse de tous mes mouvements. N'ayant aucune envie d'entrer en contact avec leur croc, je restais tranquillement assis. Mais imaginant qu'ils ne comprendraient pas des insultes tacites, je me laissai aller pour mon malheur à cligner de l'œil et à faire des grimaces au trio. Et il y eut je ne sais quel aspect de ma physionomie qui irrita la chienne si vivement qu'elle entra tout d'un coup dans un accès de fureur et sauta sur mes genoux. Je la jetai par terre et me hâtai d'interposer la table entre nous. Cet événement mit en émoi les saints tout entiers. Une demi-douzaine de diables à quatre pattes, d'âge et de dimension divers, sortirent de repères cachés pour envahir le centre où nous étions. Je sentis que mes talons et les pans de mon manteau avaient particulièrement à souffrir de l'assaut, et, parant aussi efficacement que je le pouvais, avec le tisonnier, les plus grands de mes adversaires, je me vis contraint à demander à haute voix l'assistance de quelqu'un de la maison pour établir la paix. M. Heathcliff et son homme montaient l'escalier de la cave avec un flegme tout à fait vexant. Je ne pense pas que leur mouvement ait été d'une seconde plus rapide qu'à l'ordinaire, bien que le foyer fût littéralement une tempête de bruit et de bagarre. Par bonheur, un habitant de la cuisine mit plus d'empressement. Une corpulente dame avec un bonnet retroussé, les bras nus et les joues enflammées, se précipita au milieu de nous en brandissant une poêle à frire. Elle fit un tel usage de cette arme et de sa langue que l'orage cessa comme par magie et qu'elle seule resta haletante comme la mer après un grand vent lorsque son maître entra en scène. « De quoi, diable, s'agit-il ? » me demanda-t-il en me regardant d'une façon que je supportais difficilement après ce traitement peu hospitalier. « Mais de quoi, diable, il s'agit en vérité, grognai-je. Le troupeau de porcs possédé du démon n'aurait pas eu en lui de pires esprits que ces animaux qui vous appartiennent, monsieur. Vous pourriez aussi bien laisser un étranger avec une nichée de tigre. » « Oh, ils ne s'attaqueront pas aux personnes qui ne touchent à rien, » répliqua-t-il. mettant la bouteille devant moi et ajustant la table déplacée. Le chien a raison d'être vigilant. Vous prenez un verre de vin? Non, merci. Pas mordu, j'espère. Oh, si je l'avais été, j'aurais laissé mon cachet sur le mordeur. La figure de M. Heathcliff se détendit comme pour un ricanement. Allons, allons, me dit-il. Vous êtes agité, Monsieur Lockwood. Allons, prenez un peu de vin. Les hôtes sont si rares dans cette maison que moi et mes chiens, je l'avoue volontiers, nous savons à peine comment les recevoir. À votre santé, monsieur. Je m'inclinai et retournai la politesse. Je commençais à comprendre qu'il serait fou de rester à faire la moue pour les méfaits d'une bande d'affreux chiens, sans compter que je sentais la nécessité de ne pas fournir au gaillard un plus long amusement à mes dépens, depuis que son humeur prenait cette tournure. Lui, poussé probablement par la considération prudente de la folie qu'il y avait à offenser un bon fermier, se relâcha un peu dans sa façon laconique de supprimer les pronoms et les verbes auxiliaires, et amena ce qu'il supposait être pour moi un sujet intéressant. Un discours sur les avantages et les désavantages de ma retraite présente. Je le trouvai très intelligent sur les sujets que nous abordâmes. Et avant de repartir, je me sentis assez encouragé pour promettre spontanément une autre visite pour demain. Il me parut évident que Heathcliff ne désirait guère voir se répéter mon intrusion chez lui. J'irai cependant. C'est une chose étonnante comme je me sens sociable comparé à lui. Chapitre 2. L'après-midi d'hier s'était annoncée brumeuse et froide. J'avais à moitié envie de la passer au coin de mon feu, au lieu d'errer parmi les bruyères et la boue pour aller à Wuthering Heights, les hauts de Hurlevent. Pourtant, en remontant dans ma chambre après mon dîner, notez bien, je dîne entre midi et 1 heure, la femme de ménage, une respectable matrone, prise avec la maison comme une de ses dépendances, n'a pas voulu comprendre la demande que je lui ai faite d'être servie à 5 heures. Donc, quand j'avais remonté mon escalier, avec cette paresseuse intention et que j'entrais dans ma chambre, je vis une servante qui s'y tenait agenouillée, entourée de brosses et de seaux à charbon, et qui provoquait une fumée infernale en jetant des potées de cendre pour éteindre la flamme. Ce spectacle me chassa aussitôt. Je pris mon chapeau, et après une marche de 4 miles, j'arrivai à la porte du jardin de Heathcliff juste à temps pour échapper au premier flocon d'une averse de neige. Sur ce sommet de la colline, tout exposé au vent, la terre était durcie par une gelée noire, et il soufflait un air qui faisait frissonner tous mes membres. Ne pouvant enlever la chaîne, je sautai par-dessus, et courant tout le long de la chaussée d'allée que bordent les buissons de groseilles épars çà et là, je me mis à frapper pour qu'on m'ouvrît. Je frappai si longtemps, sans résultat, que mes jointures en furent meurtries et que les chiens hurlèrent. « Maudits habitants !» m'écriai-je en moi-même. « Vous méritez par votre grossière inhospitalité d'être à jamais isolé de toute l'espèce humaine. Moi, du moins, je ne tiendrai pas ma porte barrée pendant le jour. » N'importe, je veux entrer. Ainsi résolu, je saisis le loquet et le secouai violemment. Joseph, le domestique à la figure vinaigrée, projeta sa tête par une fenêtre ronde de la grange. Qu'est-ce que vous voulez? Cria-t-il. Le maître est là-bas, dans la basse-cour. Faites le tour par le bout du jardin si vous êtes venu pour lui parler. Est-ce qu'il n'y a personne dans la maison pour ouvrir la porte? Criai-je à mon tour en manière de réponse. Mais il n'y a personne que madame, elle ne vous ouvrira pas. Quand même vous continueriez votre tapage jusqu'à la nuit. Mais pourquoi? Est-ce que vous ne pouvez pas lui dire que je suis, hein, Joseph? Oh non, pas moi, je m'en mêle pas, murmura la tête en s'effaçant. La neige commençait à tomber très épaisse. J'avais saisi la poignée de la porte pour faire une nouvelle tentative, lorsqu'un jeune homme, sans manteau, portant une fourche sur son épaule, apparut dans la cour derrière moi. Il me héla de le suivre, et après avoir traversé une lingerie et un espace pavé contenant un hangar à charbon, une pompe et un perchoir à pigeons, nous arrivâmes enfin dans l'énorme appartement chaud et gai où j'avais été reçu la première fois. Il brillait délicieusement, des rayons d'un immense feu composé de charbon, de tourbe et de bois. Et auprès de la table préparée pour un abondant repas du soir, j'eus le plaisir d'apercevoir la madame, un personnage dont jamais auparavant je n'avais encore soupçonné l'existence. Je saluai et j'attendis, pensant qu'elle m'offrirait de prendre un siège. Elle, cependant, me regardait, adossée à sa chaise, et restait muette et sans mouvement. « Un dur temps, remarquai-je. J'ai peur, madame Heathcliff, que la porte ne subisse la conséquence de la façon indolente dont vos domestiques font leur service. J'ai eu bien du travail pour les amener à m'entendre. » Elle continuait à ne pas ouvrir la bouche. Je la fixais, elle me fixait aussi. En tout cas, elle tenait ses yeux attachés sur moi d'une façon froide et sans regard, infiniment embarrassante et désagréable. « Asseyez-vous, » me dit d'un ton bourru le jeune homme. « Ils vont pas tarder à rentrer. » J'obéis. Je fis « Hum !» J'appelai la vilaine Junon qui daigna, à cette seconde entrevue, agiter l'extrémité de sa queue pour me faire signe qu'elle avouait me reconnaître. « Une belle bête, » repris-je. « Avez-vous l'intention de vous séparer des petits, madame ?»« Ils ne sont pas à moi, » dit l'aimable hôtesse d'un ton moins engageant encore que celui qu'aurait eu Miss Heathcliff à une telle réponse. « Ah, vos favoris sont parmi ceux-là, » continuai-je, me tournant vers un coussin sombre où je voyais quelque chose comme des chats. « Un singulier choix pour des favoris, » observa-t-elle avec dédain. Je n'avais pas de chance, c'était un tas de lapins morts. Je commençais à faire « hum !» Je me rapprochais du foyer, répétant ma réflexion sur la rudesse de la soirée. Vous n'auriez pas dû sortir, me dit la dame, en même temps qu'elle se levait et prenait sur la cheminée deux des paniers peints. Dans la position qu'elle occupait jusque-là, elle avait été à l'écart de la lumière. Maintenant, j'avais une idée distincte de l'ensemble de sa figure et de sa contenance. Elle était mince et paraissait à peine avoir cessé d'être une jeune fille. Une forme admirable et le visage le plus exquis que j'ai jamais eu le plaisir de contempler. Des traits petits, très blonds, avec des boucles jaunes, ou plutôt dorées, flottant librement sur son col délicat, et des yeux qui, s'ils avaient eu une expression plus avenante, auraient été irrésistibles. Mais par bonheur pour mon cœur aisément inflammable, le seul sentiment qu'ils exprimaient était quelque chose d'intermédiaire entre le mépris et une sorte de désespoir qu'il semblait singulièrement peu naturel de découvrir là. Les paniers étaient presque impossibles à atteindre pour elle, et je fis un mouvement pour l'aider. Mais elle se tourna vers moi comme ferait un avare vers quelqu'un qui voudrait l'aider à compter son or. « Je n'ai pas besoin de votre aide, » me dit-elle d'un ton cassant. « Je les prendrai bien moi-même. » « Oh, je vous demande pardon, » me hâtai-je de répondre. « Avez-vous été invité à prendre du thé ?» me demanda-t-elle, tandis qu'elle attachait un tablier sur sa jupe noire, d'une propreté irréprochable, et qu'elle se tenait debout avec une cuillère pleine de feuilles de thé appuyée sur le pot. « Je serais heureux d'en avoir une tasse, » répondis-je. Avez-vous été invité ? Me répéta-t-elle. Non, dis-je souriant à demi. Mais vous êtes précisément la personne qu'il convient pour m'inviter. Elle retira sa main avec le thé, la cuillère et tout, et reprit sa place sur sa chaise, avec un air d'humeur. Son front se rida et sa petite lèvre inférieure, toute rouge, s'avança comme celle d'un enfant prêt à pleurer. Dans l'intervalle, le jeune homme avait revêtu sa personne d'une veste décidément très râpée, et, se dressant devant l'éclat du feu, il me regardait toujours du coin de l'œil, absolument comme s'il y avait eu entre nous quelque mortelle injure restée sans vengeance. Je commençais à me demander s'il était ou non un domestique. Sa manière de se vêtir et sa manière de parler étaient également rudes, entièrement dénué de l'air de supériorité que l'on pouvait observer chez M. et Mme Heathcliff. Les boucles épaisses et brunes de ses cheveux étaient raides et incultes, ses moustaches faisaient un crochet sauvage sur ses joues, et ses mains étaient calleuses et noires comme celles d'un valet de ferme ordinaire. Et pourtant, son attitude était libre, presque hautaine, et il ne montrait rien de l'assiduité d'un domestique auprès de la dame de la maison. Dans l'absence de tout indice clair sur sa condition, je pensais que le meilleur était de m'abstenir de prendre garde à sa curieuse conduite, et 5 minutes après, l'entrée de Heathcliff me releva en quelque mesure de l'embarras de ma position. « Vous le voyez, monsieur, je suis venu, suivant ma promesse, m'écriai-je, prenant un ton joyeux. Et je crains bien d'être fortement éprouvé dans une demi-heure, à supposer que vous veuillez me donner à mourir jusque-là. » « Une demi-heure, dit-il, secouant les flocons blancs qui couvraient ses vêtements. Il est bien étonnant que vous choisissiez le plus épais d'une tempête de neige pour faire vos promenades. Savez-vous que vous courez le risque de vous perdre dans les marais ? Les gens à qui ces landes sont familières s'égarent souvent eux-mêmes par des soirées comme celle-ci, et je peux vous certifier qu'il n'y a pas pour le moment la moindre chance que le temps change. Peut-être puis-je trouver un guide parmi vos garçons. Il resterait à la grange jusqu'à demain matin. Pouvez-vous m'en procurer un ? Non, je ne peux pas. Oh, vraiment ? Eh bien, alors, il faudra que je m'en remette à ma propre sagacité. Est-ce que vous allez faire le thé ? Demanda l'homme à la veste râpée, transportant de moi sur la jeune dame son regard féroce. « Est-ce qu'il faut lui en donner ? » demanda-t-elle, s'adressant à Heathcliff. « Préparez-le, voulez-vous ? » fut la réponse, prononcée avec tant de sauvagerie que je tressaillis. Le ton qu'il mit à ces mots révélait décidément une nature méchante. Je ne me sentais plus du tout porté à appeler Heathcliff un admirable gaillard. Quand les préparatifs du thé furent achevés, il m'invita avec un « Et maintenant, monsieur, approchez votre chaise. » Tous, y compris le rustique jeune homme, nous nous installâmes autour de la table. Un austère silence régnait tandis que nous mangions. Je songeais que si j'avais causé le nuage, c'était aussi mon devoir de faire un effort pour le chasser. Ces gens-là ne pouvaient pas rester toute la journée si sombres et si taciturnes. Et il était impossible, quelque mauvais que fût leur humeur naturelle, que leur renfrognement de ce soir-là fût leur contenance de tous les jours. « Il est étrange, commençai-je, dans l'intervalle entre le moment où j'avais avalé une tasse de thé et celui où j'en reçus une seconde. Il est étrange comment la coutume peut façonner nos goûts et nos idées. Bien des gens ne pourraient pas imaginer le bonheur possible dans une vie aussi complètement isolée du monde que la nôtre, monsieur Heathcliff. Et pourtant, j'ose dire que, entouré par votre famille et avec votre aimable dame, comme le génie président à votre maison et à votre cœur... Mon aimable dame, m'interrompit-il avec un ricanement. Où est-elle, je vous prie, mon admirable dame ? Madame Heathcliff, votre femme, je veux dire. Oh, bien, oh, vous vouliez insinuer que son esprit a pris la fonction d'un ange providentiel et garde la fortune de Fringates maintenant que son corps n'y est plus, est-ce cela ? Apercevant ma faute, je tentai de la corriger. J'aurais dû voir qu'il y avait une trop grande disproportion dans l'âge des deux parties pour qu'il fût vraisemblable de les croire mari et femme. L'un avait près de 40 ans, une période de vigueur intellectuelle où il est rare que les hommes se complaisent dans l'illusion de faire des mariages d'amour avec des jeunes filles. C'est un rêve qu'il aurait réservé pour les consoler plus tard, dans le déclin de leurs années. Mais l'autre n'avait pas l'air d'avoir encore 17 ans. Alors une idée passa dans mon esprit comme un éclair. Ce gaillard derrière mon épaule en train de boire son thé dans une assiette et de manger son pain avec des mains sales, ce devait être son mari, Heathcliff Junior, naturellement. Voilà la conséquence de s'en serrer vivant. Elle se sera jetée sur ce rustre, faute de savoir qu'il y eut au monde de meilleures parties. Une vraie pitié. Je dois trouver un moyen de l'amener à regretter son choix. Cette dernière réflexion pourra sembler vaniteuse. Elle ne l'était pas. Mon voisin me frappait par quelque chose de presque repoussant, et je savais par expérience que j'étais pour ma part très tolérablement attrayant. Madame Heathcliff est ma belle-fille, dit Heathcliff, confirmant ma conjecture. En parlant, il dirigeait sur elle un regard très particulier, un regard de haine, à moins qu'il n'ait eu une disposition anormale des muscles faciaux qui les empêche d'interpréter le langage de son âme comme ceux des autres hommes. Ah, certainement, je vois maintenant, c'est vous qui êtes l'heureux possesseur de cette fée bienfaisante, remarquai-je, me tournant vers mon voisin. Ah, ce fut pique auparavant. Le jeune homme devint rouge sang et serra son poing avec toutes les apparences de projeter un assaut. Mais il sembla bientôt revenir à lui et étouffa l'orage dans un brutal juron murmuré à mon adresse, mais que cependant je pris soin de ne pas remarquer. Et « pas de chance dans vos conjectures, monsieur, » observa mon hôte. « Ni l'un ni l'autre de nous deux avons le privilège de posséder votre bonne fée. Son possesseur est mort. Je vous ai dit qu'elle était ma belle-fille. Il faut donc qu'elle ait épousé mon fils. » Et alors ce jeune homme est pas mon fils, à coup sûr. Heathcliff sourit de nouveau, comme si c'était tout de même une trop forte plaisanterie de lui attribuer la paternité de cet ours. « Mon nom est Hareton Henshaw, » grommela l'autre, « et je vous conseillerais de le respecter. » « Je ne vous ai témoigné aucun manque de respect, » répondis-je, riant intérieurement de la dignité avec laquelle il s'annonçait lui-même. Il fixa ses yeux sur moi plus longtemps que je ne me souciais de le dévisager en échange, mais par peur d'être hanté ou de souffleter ses oreilles ou de rendre trop manifeste mon hilarité. Je commençais à me trouver incontestablement déplacé dans cet agréable cercle de famille. La déplaisante atmosphère spirituelle grandit et fit plus que neutraliser le confort physique qui rayonnait autour de moi. Et je résolus de bien réfléchir avant de m'engager une troisième fois sous ce toit. L'occupation de manger étant terminée et personne ne prononçant un mot d'une conversation un peu sociable, je m'approchai d'une fenêtre pour examiner le temps. Je vis un spectacle lugubre. Une nuit noire descendait prématurément Le ciel et les collines se mêlaient dans un amer tourbillon de vent et de neige suffocante. Oh, je crois pas qu'il me soit possible de rentrer chez moi maintenant sans un guide, ne puis-je me retenir de m'écrier. Les chemins doivent déjà être ensevelis sous la neige, et quand même ils seraient découverts, j'aurais peine à les distinguer à un pas devant moi. Hareton, faites rentrer cette douzaine de moutons sous le porche de la grange. Ils seront couverts par la neige si on les laisse dans leur parc pendant la nuit. Et mettez une planche sur le devant, dit Heathcliff. Alors comment dois-je faire ? Repris-je avec une irritation croissante. Pas de réponse à ma question. Regardant autour de moi, je vis seulement Joseph, qui apportait un seau de porridge pour les chiens, et Madame Heathcliff, qui, appuyée au-dessus du feu, se divertissait à brûler une boîte d'allumettes qu'elle venait de faire tomber de dessus la cheminée en y remettant la boîte à thé. Joseph, ayant déposé son fardeau, se livrait à un examen critique de la chambre et marmonnait dans des tons craquants. « Mais je me demande comment vous pouvez faire pour rester ici à paresser pendant qu'ils sont tous à travailler dehors. Mais vous êtes une rien du tout. Il est inutile de parler. Jamais vous ne vous corrigerez de vos mauvaises habitudes. Et vous irez tout droit au diable comme votre mère avant vous. » Je n'imaginais pour un instant que cette pièce d'éloquence s'adressait à moi. Et ma rage étant arrivée à son comble, je marchais vers le vieux gredin avec l'intention de le lancer dehors, mais Madame Heathcliff m'arrêta par sa réponse. « Scandaleux vieux hypocrite !» répliqua-t-elle. « N'avez-vous pas peur de voir vous-même votre corps emporté par le diable, toutes les fois que vous mentionnez son nom ? Je vous avertis de cesser de me provoquer, ou bien je demanderai votre enlèvement à Satan, comme une faveur particulière. » Joseph, effrayé, se hâta de sortir. Maintenant, nous étions seuls. J'essayais d'intéresser la belle jeune femme à ma détresse. « Madame Heathcliff, lui dis-je avec chaleur, je pense que vous m'excuserez de vous déranger, car avec votre figure, je suis sûr que vous ne pouvez pas ne pas avoir bon cœur. Indiquez-moi quelques signes qui puissent me faire reconnaître mon chemin pour rentrer chez moi. Je n'ai pas plus d'idées pour savoir comment je pourrais y rentrer que vous n'en auriez sur la façon d'aller à Londres. » « Prenez le chemin par où vous êtes venu, » répondit-elle, se cachant dans un fauteuil, avec une chandelle à côté et un livre ouvert devant elle. « C'est un conseil sommaire, mais le meilleur que je puisse vous donner. » « Alors, il s'ensuit que je suis forcé de rester ici. » « Donc, c'est une affaire que vous pourrez arranger avec votre hôte, je n'ai rien à voir. » J'espère que cela vous apprendra à ne plus faire d'aussi imprudentes promenades sur ces collines, cria de l'entrée de la cuisine la dure voix de Heathcliff. Pour ce qui est de rester ici, je tiens pas d'installation pour les visiteurs. Il faudra, si vous voulez rester, que vous partagiez le lit de Hareton ou celui de Joseph. Oh, je peux dormir sur une chaise dans cette chambre, répondis-je. Non, non, un étranger est un étranger, qu'il soit riche ou pauvre. Il ne me convient pas de laisser quelqu'un déranger cet endroit quand je n'y suis pas, dit le misérable. Sous cette insulte, ma patience fut à bout. J'eus une expression de dégoût et je courus derrière lui dans la cour, ou plutôt derrière Earnshaw, tant ma confusion était grande. Il faisait si noir que je ne pouvais distinguer les moyens de sortir. Et comme j'errais tout alentour, je pus entendre un autre spécimen de leur aimable conduite les uns pour les autres. Dans le premier instant, le jeune homme paraissait disposé à me venir en aide. Je veux aller avec lui jusqu'au parc, disait-il. Vous allez aller avec lui jusqu'au diable? S'écria son maître, à moins que ce ne soit pas son maître. Qu'est-ce qui restera pour surveiller les chevaux, hein? La vie d'un homme est une chose plus importante que l'abandon momentané des chevaux. Il faut que quelqu'un aille avec lui, murmura Madame Heathcliff, avec plus de bonté que je n'en aurais attendu d'elle. Pas sur votre ordre, répliqua Ayrton. Si vous le prenez sous votre protection, vous feriez mieux de rester tranquille. Alors j'espère que son spectre vous hantera. Et j'espère que M. Heathcliff ne trouvera jamais d'autre fermier jusqu'à ce que la grange soit en ruine, répondit-elle vivement. Mais écoutez, écoutez, elle est en train de les maudire, murmura Joseph dans la direction dans laquelle je me trouvais courir. Il était assis à portée de Louis, occupé à traire les vaches sous la lumière d'une lanterne. Je m'emparai de cette dernière sans aucune cérémonie, et criant que je la renverrais dans la matinée, je courus à la poterne la plus voisine. Monsieur, monsieur, ils volent la lanterne! Clama le vieux en même temps qu'il me poursuivait. Hé, Gnachère! Hé, chien! Hé, Wolf, tenez-le! Au moment où j'ouvrais la petite porte, deux monstres velus s'élancèrent sur ma gorge, me faisant tomber et éteignant la lumière, pendant qu'un hurrah où se mêlaient la voix de Heathcliff et celle de Hareton vint mettre le comble à ma rage et à mon humiliation. Par bonheur, les bêtes semblaient attacher plus d'importance à étirer leurs pattes, à aboyer et agiter leur queue qu'à me dévorer vivant. Mais elles ne me permirent pas de me relever, et je dus rester étendu jusqu'à ce qu'il plût à leur méchant maître de me délivrer. Alors, tête nue et tremblant de colère, j'ordonnai à ces mécréants de me laisser sortir. Je leur dis qu'il y avait danger pour eux à me retenir une minute de plus, et j'y ajoutai diverses menaces de représailles dont la profonde violence aurait été du goût du roi Lear. La véhémence de mon agitation amena un copieux saignement de nez, et Heathcliff continua à rire et moi à gronder. Je ne sais pas comment la scène se serait terminée s'il ne s'était pas trouvé là une personne à la fois plus raisonnable que moi-même et plus bienveillante que mon partenaire. Cette personne était Zilia, la robuste femme de ménage, qui à la fin était sortie de la maison pour s'enquérir de la nature du tapage. Elle s'imagina que quelqu'un de la maison avait usé de violence avec moi, et n'osant pas s'en prendre à son maître, elle tourna son artillerie vocale contre le plus jeune des deux gredins. « Eh bien, monsieur Hirschau, s'écria-t-elle, voilà encore du bel ouvrage que vous avez fait. Est-ce que nous allons maintenant assassiner les gens sur la pierre même de notre porte? Je vois que cette maison ne me conviendra jamais. Regardez le pauvre garçon, il étouffe quasiment. Fi, fi, cela ne peut pas continuer ainsi. Allez, rentrez, j'arrangerai cela. Tenez-vous tranquille. » Avec ces mots, elle versa tout à coup un pot d'eau glacée sur mon cou et m'entraîna dans la cuisine. Monsieur Heathcliff nous y suivit. Sa gaieté accidentelle n'avait pas tardé à disparaître pour céder la place à son air morose accoutumé. Je me sentais extrêmement malade, étourdi et faible. Et ainsi je me trouvais absolument contraint à accepter un logement sous son toit. Il dit à Zia de me donner un verre de brandy, puis passa dans la chambre, pendant qu'elle murmurait ses condoléances sur ma triste aventure. Et lorsque j'eus obéi à ses ordres, ce qui eut pour effet de me faire un peu revivre, elle me conduisit me coucher. Chapitre 3. Pendant qu'elle m'accompagnait dans l'escalier, elle me recommanda de cacher la chandelle et de ne pas faire de bruit, parce que son maître avait des idées étranges sur la chambre où elle voulait me mettre et ne consentait pas volontiers à y laisser loger quelqu'un. Je lui en demandai la raison. Elle répondit qu'elle ne savait pas. Elle n'était dans la maison que depuis un an ou deux, et les gens y avaient tant d'allures bizarres qu'elle ne pouvait pas commencer maintenant à être curieuse. Trop anéanti pour être moi-même bien curieux, je fermai solidement la porte et jetai un regard autour de la chambre en quête du lit. Tout le mobilier consistait dans une chaise, un porte-manteau et une grande armoire de chêne, avec tout près du haut des carrés découpés ressemblant à des fenêtres de calèche. Lorsque je me fus approché de cette construction et que je lui regardai en dedans, je découvris que c'était une singulière espèce de lit à la vieille mode, très ingénieusement imaginé pour rendre inutile à chaque membre de la famille d'avoir une chambre à lui. En fait, cela formait un petit cabinet isolé, et le rebord d'une fenêtre comprise dans l'installation servait de table. J'ouvris les panneaux, j'entrai avec ma lumière, je les refermai de nouveau, et je me sentis rassuré contre la vigilance de Heathcliff ou de tout autre. Excité comme je l'étais, je fus longtemps incapable de m'endormir, et le sommeil, lorsqu'il vint, m'apporta les plus horribles cauchemars. Il me sembla que j'avais les pieds et les mains enchaînés et que je me mettais à crier tout haut dans une frénésie de terreur. À ma grande confusion, je découvris que mon cri n'était pas une imagination. J'entendis des pas pressés s'approcher de la porte de ma chambre. Quelqu'un l'ouvrit d'une main vigoureuse et je vis une lumière briller par les carrés disposés au sommet de mon lit. Et j'étais assis, encore tremblant, essuyant la sueur de mon front. Le nouveau venu semblait hésiter et se murmurait quelque chose à lui-même. Enfin, il dit à mi-voix, d'un ton qui prouvait qu'il ne s'attendait pas à une réponse, « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Je jugeais qu'il valait mieux avouer ma présence, car j'avais reconnu la voix de Heathcliff et je craignais qu'il ne poursuivît ses recherches si je ne répondais rien. Dans cette intention, je me tournai et j'ouvris les panneaux. Je n'oublierai pas de sitôt l'effet produit par mon geste. Heathcliff était debout à l'entrée, vêtu seulement d'une chemise et d'un pantalon, avec une chandelle s'égouttant sur ses doigts, et le visage aussi blanc que le mur derrière lui. Le premier craquement du panneau le fit tressaillir comme un choc électrique. La lumière s'échappa de sa main et tomba à quelques pas de lui, et son émoi était si extrême qu'il put à peine la ramasser. « C'est seulement votre hôte, monsieur, criai-je, désireux de lui épargner l'humiliation de montrer plus longtemps sa lâcheté. J'ai eu le malheur de crier dans mon sommeil, sous l'effet d'un cauchemar terrible. Oh, je suis fâché de vous avoir dérangé. Oh, que Dieu vous confonde, monsieur Lockwood, je voudrais vous voir au diable, commença mon hôte, mettant la chandelle sur une chaise, dans l'impossibilité où il était de la tenir lui-même. « Et qui est-ce qui vous a introduit dans cette chambre ? » continua-t-il, enfonçant ses ongles dans les paumes de ses mains et grinçant des dents pour arrêter les convulsions des mâchoires. « Qui est-ce ? J'ai bonne envie de mettre celui-là à la porte à l'instant même. » « C'est votre servante, Zia, » répondis-je, m'empressant de descendre du lit et de reprendre mes vêtements. Je ne me plaindrai pas beaucoup si vous la chassez, monsieur Heathcliff, car elle le mérite abondamment. Je suppose qu'elle avait besoin d'avoir une preuve de plus que cet endroit a été hanté et qu'elle se l'est offerte à mes dépens. Eh bien oui, il est tout rempli de spectres et de gobelins. Vous avez bien raison de le tenir fermé. Et que pouvez-vous bien entendre en me parlant de cette façon ? Heathcliff avec une véhémence sauvage. Comment osez-vous, vous, sous mon toit, Mais Dieu, il est fou pour parler ainsi. » Et il frappa son front avec rage. Je ne savais pas si je devais me montrer froissé de ces paroles ou poursuivre mon explication, mais il me sembla si profondément affecté que je pris pitié et détaillai à mon hôte l'histoire de mes rêves. Pendant que je parlais, Heathcliff, peu à peu, se reculait dans l'ombre du lit. Il finit par s'asseoir derrière, presque entièrement caché à ma vue. Pourtant, sa respiration irrégulière et entrecoupée me fit deviner qu'il luttait pour vaincre un excès d'émotions violentes. Ne voulant pas lui laisser voir que je l'entendais, je continuai ma toilette le plus brillamment que je le pouvais, je consultais ma montre et monologuais sur la longueur de la nuit. « Oh, pas encore 3 heures, j'aurais juré qu'il en était 6. » Le temps stagne ici, bien sûr que nous nous sommes couchés à 8 heures. Toujours à 9 heures en hiver et le lever à 4, dit mon hôte, arrêtant un grognement. Je supposais en même temps, par l'ombre du mouvement de son bras, qu'il essuyait une larme dans ses yeux. Monsieur Lockwood, ajouta-t-il, allez dans ma chambre. Vos cris ont envoyé au diable mon sommeil pour cette nuit. Le mien aussi, répondis-je. Je vais me promener dans la cour jusqu'à ce qu'il fasse jour, puis je partirai. Et vous n'avez pas besoin de craindre que je recommence mon évasion. Je suis maintenant tout à fait guéri du désir de chercher le plaisir dans la société, que ce soit à la campagne ou à la ville. Un homme sensé doit apprendre à trouver en lui-même une compagnie suffisante. « Charmante compagnie, murmura Heathcliff. Prenez la chandelle et allez où vous plaira, je vous rejoins à l'instant. Toutefois, n'allez pas dans la cour, les chiens sont déchaînés. Et pour ce qui est de la maison, Junon y monte la garde et... Non, vous pouvez seulement vous promener le long des escaliers et des passages. Mais sortez, je viens dans 2 minutes. » J'obéis, c'est-à-dire que je quittai la chambre. Mais alors, ne sachant pas où conduisaient les 3 couloirs, je me tins tranquille et j'assistai involontairement à un trait de superstition de mon propriétaire qui démentait d'une façon bien étrange son bon sens apparent. Je le vis marcher vers le lit, ouvrir violemment le treillage et en même temps qu'il le tirait, éclater dans un furieux accès de larmes. « Entre, entre, disait-il en sanglotant. Cathy, viens. Oh, viens une fois encore. Oh, chérie de mon cœur, entends-moi, cette fois enfin, Catherine. » Le spectre se montra capricieux comme tous les spectres. Il ne donna aucun signe de vie. Mais par la fenêtre, la neige et le vent entraient en tourbillon sauvage. Je les ressentais même à l'endroit où j'étais, et ils éteignirent la lumière. Il y avait une telle angoisse dans le jaillissement de douleur qui accompagnait cette extravagance que ma compassion me fit passer sur sa folie et que je m'éloignais à demi fâché d'avoir entendu tout cela, vexé surtout d'avoir avoué mes ridicules cauchemars, puisqu'il en était résulté cette agonie. Mais le pourquoi de ce qui était arrivé, je ne pouvais le comprendre. Je descendis avec précaution dans les régions basses de la maison, et j'aboutis à l'arrière-cuisine où quelques charbons encore un peu brillants, et que j'eus soin de ramasser en un tas compact, me permirent de rallumer ma chandelle. Rien ne remuait, excepté un chat gris qui sortit des cendres en rampant, et me salua avec un miaulement plaintif. 2 bancs circulaires enfermaient presque entièrement le foyer. Sur l'un d'eux, je m'étendis, et Grimalkin grimpa sur l'arbre. Nous sommeillâmes de compagnie, jusqu'à ce que notre retraite fût envahie et que Joseph se montrât. Il jeta un regard sinistre sur la petite flamme que j'avais excitée à reluire entre les deux chenets. Il précipita le chat du poste élevé où il se tenait, et se mettant lui-même à sa place, il commença l'opération de bourrer de tabac une énorme pipe. Ma présence dans son sanctuaire lui parut évidemment un trait d'impudence trop honteux pour être remarqué. Il appliqua silencieusement sa pipe à ses lèvres, croisa les bras et souffla la fumée. Je le laissai jouir sans trouble de sa volupté. Quand il eut poussé sa dernière colonne de fumée et émis un profond soupir, il se leva, s'en alla aussi solennellement qu'il était venu. Un pas plus élastique entra ensuite. Cette fois, j'ouvris ma bouche pour un « bonjour », mais je la refermai sans achever ma formule, car c'était Harriton Inverwe qui s'acquittait sotto voce de ses oraisons dans une série de jurons dirigés contre tous les objets qu'il touchait, pendant qu'il fouillait dans un coin, à la recherche d'une bêche ou d'une pelle, sans doute pour se creuser un chemin dans la neige. Il jeta un regard sur le banc, dilata ses narines et pensa qu'il était aussi inutile d'échanger des civilités avec moi qu'avec mon compagnon le chat. Je devinais par la vue de ses préparatifs que la sortie était enfin permise et quittant ma dure couche, je fis un mouvement pour le suivre. Il s'en aperçut et désigna une porte intérieure avec le bout de sa bêche, me donnant à entendre par un son inarticulé que c'était le lieu où je devais aller si je changeais de place. Cette porte donnait dans la maison où je trouvais les femmes déjà en mouvement. Zilla produisait d'énormes flammes dans la cheminée avec un colossal soufflet, pendant que Madame Heathcliff, agenouillée sur le foyer, lisait un livre à la lumière du feu. Elle tenait sa main entre la chaleur de la fournaise et ses yeux semblaient tout absorbés dans son occupation, ne s'arrêtant que pour gronder la servante de la couvrir d'étincelles ou pour repousser de temps à autre un chien qui approchait son nez trop près de sa figure. Je fus surpris de voir que Heathcliff était là aussi. Il se tenait près du feu, me tournant le dos, et je compris qu'il venait de faire une scène orageuse à la pauvre Zilla, celle-ci interrompant à tout moment son travail pour relever le coin de son tablier et pour pousser les grognements irrités. « Que vous ? Vous indigne ! » éclatait Heathcliff au moment où j'entrais, se tournant vers sa belle-fille. « Vous voilà encore avec votre paresse, oh ! Tous les autres gagnent leur pain, et vous, vous vivez de ma charité. Mettez de côté ces balivernes et trouvez quelque chose à faire. Je vous ferai expier la calamité de vous avoir toujours sous mes yeux. Entendez-vous, maudite coquine ? » Je mettrai de côté mes balivernes, parce que vous pouvez me forcer à le faire si je refuse, répondit la jeune dame, fermant son livre et le jetant sur une chaise. Mais quant à faire quelque chose, je ne ferai rien que ce qui me plaira. Dussiez-vous en perdre la langue à force de jurer? Heathcliff leva son bras, et la jeune femme, qui paraissait en connaître le poids, s'empressa de se mettre à l'abri. N'ayant aucun désir d'assister pour me distraire à une bataille de chats et de chiens, je m'avançai d'un pas vif comme si j'étais heureux de prendre ma part de la chaleur du foyer et tout à fait ignorant de la dispute interrompue. Chacun, d'ailleurs, eut assez de tenue pour suspendre les hostilités. M. Heathcliff enfonça ses poings dans ses poches pour les garantir de la tentation. Madame Heathcliff plissa ses lèvres et marcha vers un siège assez éloigné où elle tint sa parole en jouant pendant tout le reste de mon séjour le rôle d'une statue. Ce séjour, d'ailleurs, ne fut pas long. Je me refusai à partager leur déjeuner et au premier rayon du jour, je m'empressai de m'échapper vers le plein air qui était maintenant clair, tranquille et froid. Mon propriétaire me cria de m'arrêter avant que je fusse arrivé au fond du jardin et m'offrit de m'accompagner jusqu'au bout du marais. Et c'est un bonheur qu'il l'ait fait, car tout le dos de la colline n'était qu'un houleux océan blanc. Les hauteurs et les affaissements causés par la neige n'indiquant en aucune façon des hauteurs et des affaissements correspondant dans le sol. Il y avait ainsi plusieurs puits que la neige avait entièrement nivelés, et des rangées entières de remblais avaient été effacées de la carte que ma promenade de la veille avait laissée imprimée dans mon esprit. J'avais remarqué d'un côté de la route, à des intervalles de 6 ou 7 yards, une ligne de pierres dressées qui se prolongeait tout le long de la steppe. Elles avaient été dressées et barbouillées de chaux afin de servir de guide dans les ténèbres ou encore, dans les cas comme celui-ci, de façon que l'on pût distinguer le sentier ferme des marais profonds qui s'étendaient sur les deux côtés. Mais à l'exception de points sales qui émergeaient un peu çà et là, toute trace de leur existence avait disparu, et mon compagnon fut souvent forcé de m'avertir de tourner sur la droite ou sur la gauche, alors que je m'imaginais suivre correctement les détours du chemin. Nous échangeâmes fort peu de mots. Il s'arrêta à l'entrée de Thrushcross Park, me disant qu'il n'y avait plus d'erreur à faire depuis là. Nos adieux se bornèrent à un rapide salut, et je continuai mon chemin, me fiant à mes propres ressources, car la loge du portier est à présent inoccupée. La distance de cette porte à la grange est de 2 miles, mais je crois bien que je me suis arrangé pour la faire de 4, tantôt me perdant parmi les arbres, tantôt m'enfonçant jusqu'au cou dans la neige. Divertissement que ne peuvent apprécier que ceux qui en ont fait l'expérience. En tout cas, et quoi qu'il en soit de mes errements, l'horloge sonnait midi lorsque je rentrais chez moi, et cela donnait exactement une moyenne d'1 heure par mile pour le chemin ordinaire de Wuthering Heights. La dépendance humaine de ma maison et ses satellites s'élancèrent pour me souhaiter la bienvenue, s'écriant en tumulte qu'elles avaient désespéré de moi. Toutes conjecturaient que j'avais péri la nuit dernière. Elles étaient en train de se demander par quel moyen on s'y prendrait pour aller à la découverte de mes restes. Je leur ordonnais de rester tranquilles, à présent qu'elles me voyaient de retour, et, gelé jusqu'au cœur, je m'élançai dans l'escalier. Arrivé au premier, je revêtis des vêtements secs, et après avoir marché dans ma chambre 30 ou 40 minutes pour restaurer la chaleur animale, je me suis installé dans mon cabinet, faible comme un petit chat, presque trop faible pour jouir de la guêpe flambée et du café fumant que m'a préparé ma servante.